Voilà. Bonjour à tous. Je suis content d'être de retour. La semaine passée, j'étais à Niagara Falls pour une formation. C'est une belle place. Malheureusement, j'ai pas eu le temps, l'occasion de sortir, aller voir les belles chutes. Mais on était vraiment bénis de passer ce moment aussi avec d'autres responsables de l'Église méthodiste au Canada pour pouvoir voir, travailler pour la suite, pour l'avenir de notre mouvement. Nous pouvons continuer de prier aussi pour l'élection de l'évêque. On est dans la dernière partie, c'est-à-dire qu'il y a eu deux candidats qui ont été retenus par le comité de préparation. Et maintenant, on est en train de prier, de réfléchir, de voir ce que le Seigneur veut aussi pour la suite. Alors, je crois que l'élection va se faire à la fin de ce mois, avant la conférence générale au mois d'avril. Alors, prions, prions pour que nous puissions vraiment avoir le discernement de Dieu de ce que le Seigneur veut aussi comme prochain dirigeant. Nous savons comment que c'est une tâche qui est très difficile, qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de déplacements. Le Canada est grand, mais on veut vraiment prier que Dieu puisse choisir la bonne personne, la prépare aussi pour les défis. L'Église vit beaucoup de défis. J'ai appris la semaine passée, malheureusement, que beaucoup d'églises au Canada, de l'Église méthodiste, sont en processus de fermeture d'église, c'est-à-dire qu'il reste peut-être juste 5, 10, 15 personnes. Beaucoup des fois, ce sont des églises rurales qui sont là depuis des années, des dizaines d'années, même des centaines d'années, mais qu'il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de nouvelles familles dans ces églises. Et ça fait mal d'entendre, de voir que l'œuvre du Seigneur va s'arrêter dans certains endroits. Donc, on va prier, continuer de prier pour que Dieu renouvelle ces églises, que Dieu permette qu'il y ait vraiment des nouvelles personnes qui viennent, des pasteurs qui puissent arriver pour pouvoir donner un second souffle à ces églises. Donc, on voit que c'est un défi que l'Église, elle est là jour après jour. Et aujourd'hui, on va continuer de faire l'étude des lettres aux églises qu'on trouve dans l'Apocalypse, donc que Jean a écrit sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Et on arrive dans la dernière lettre dans l'Église de Laodicée, et le titre c'est « Tu es ni froid ni bouillant ». Tu n'es ni froid ni bouillant. Donc on sait que l'apôtre Jean a été condamné à cause de sa foi. Il a été déporté justement sur l'île de Patmos, où il écrit justement ce livre, l'Apocalypse, qui veut dire révélation de la part de Dieu. Donc on voit que ces messages aux différentes églises sont là pour nous réconforter, nous avertir, pour mettre des choses en évidence, des choses qui ne fonctionnent pas, ou même des points positifs dans les églises, afin qu'on puisse continuer d'aller de l'avant, ou lorsqu'il y a des points négatifs, afin d'être changé, averti, pour pouvoir continuer de marcher dans la vérité de Dieu. Il y a un verset qu'on lit à chaque fois, dans le chapitre 1, verset 3, qui dit « Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui l'entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans le livre, car le temps est proche. » On sait comment que le temps est proche. On sait comment que justement l'ennemi va par toutes sortes de façons faire que l'Église ne fonctionne pas. Et justement, comme je vous parlais de ces églises qui risquent peut-être de fermer, va mettre le doute dans les personnes, va enlever cette ardeur, cette vigueur pour le Seigneur. Et fait que justement, à un moment donné, on lâche prise. À un moment donné, on se décourage. À un moment donné, on ne croit plus vraiment qu'on peut faire quelque chose de bien avec le Seigneur. Alors regardons en détail plus cette lettre. Dans Apocalypse chapitre 3, ouvrons notre Bible. Il y a encore des Bibles en arrière aussi. Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22, qui dit, à l'ange de l'église de Laodicée, écrit, voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création de Dieu. Je connais ta conduite et je sais que tu es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Verset 17, tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité. et en collyre pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Verset 20. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône comme moi-même. Je suis allé siéger avec mon Père, qui est son trône, après avoir remporté la victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit aux églises. Amen. J'aime beaucoup cette lettre. C'est une des lettres que je apprécie le plus, pas par rapport au message qui est donné. Oui, le message est très important. Mais par rapport à comment que l'Esprit de Dieu va travailler, va dire des choses devant à cette église. Vous allez voir que les mots qui sont utilisés dans cette lettre sont percutants, avec une signification justement importante, et encore pour nous aujourd'hui. Donc, regardons un peu par rapport au début de la ville. Donc, Laodicée était située au bord d'un fleuve et au carrefour de trois grandes routes de l'Asie mineure. C'est un lieu qui était commercial et administratif. Il y avait énormément de commerce. C'était un centre bancaire extrêmement riche. Il y avait beaucoup de banques. Il y avait de nombreux commerces de confection de vêtements et de tapis de laine. On va le voir un peu plus tard pourquoi il est parlé de cela. Elle possédait même une école de médecine renommée pour traiter les maladies des yeux. Donc, on a pu voir que cette ville est devenue très riche. Elle est même très fière de sa richesse. À tel point qu'en l'an 60, après qu'il y a eu un tremblement de terre qui a détruit une grande partie de la ville, les Laodiciens ont refusé l'aide de l'empereur Néron pour reconstruire la ville. Sur plusieurs édifices de cette ville, comme l'amphithéâtre, on voyait cette inscription « Par nos propres forces ». Ils étaient tellement fiers, ils étaient tellement croire qu'ils avaient beaucoup de richesses qu'ils étaient capables de faire par leur propre force. Une autre caractéristique de cette ville, c'est qu'elle permet, pour mieux comprendre aussi les versets 15 et 16, Laodicée ne possédait pas de source d'eau potable. Elle faisait venir son eau par un aqueduc depuis Hiérapolis, à peu près à une dizaine de kilomètres. Donc ces sources étaient des sources d'eau chaude. Donc lorsque l'eau arrivait à Laodicée, elle devenait tiède après un parcours de 10 kilomètres. La boire la faisait ainsi vomir. Donc, il fallait la laisser refroidir. Donc, à cause de la dépendance de Laodicée, de l'eau et d'une autre chose, faisait que Laodicée était vulnérable par rapport aux militaires. Elle ne pouvait pas se permettre d'avoir des conflits. Voilà pourquoi que les Laodiciens ont créé des bonnes relations avec tous ceux en se mettant tolérants. À commandement, au prix même des fois de certains compromis. Tout ça a contribué justement à forger un état d'esprit, un caractère qui était propre aux Laodiciens. Et c'est là qu'on voit comment que le caractère, le contexte de la ville va influencer aussi l'Église. Parce qu'elle est un peu le portrait de ses habitants. Cette église, on ne sait pas dans quelle mesure elle a été, par qui qu'elle a été instaurée, mais on sait que c'est dans le temps du séjour de Paul à Éphèse, dans l'an 53-57. Donc, elle avait une bonne trentaine d'années lorsque cette lettre a été écrite. Il est clair que l'état d'esprit, justement, qui régnait dans la ville, a beaucoup influencé cette communauté chrétienne. Surtout par dire par mes propres forces. On sait qu'aujourd'hui, là où nous nous trouvons dans notre société, on y est influencé. Combien de fois que j'ai des personnes, même de l'église ou ailleurs, qui viennent de différentes cultures, qui vont dire, ben, chez moi, je faisais telle chose à l'église, j'étais presque 4-5 jours à l'église, en train de louer le Seigneur, à faire des activités. Et aujourd'hui, ces personnes, lorsqu'ils sont ici au Québec, on les voit moins facilement à l'église. La société nous pousse beaucoup à la consommation, nous pousse, c'est vrai, à un travail, il y a beaucoup d'obligations, qui fait que c'est vrai que les circonstances, peut-être, sont différentes. Mais on voit comment que la société nous pousse à faire quelque chose. Et voilà pourquoi qu'en tant que chrétien, on ne doit pas forcément suivre l'influence de la société, mais suivre vraiment la volonté de Dieu. Prochain dia, si nous regardons un peu, justement, ces quelques phrases qui nous ont été données. Au verset 14, il dit... À l'ange de l'église de Laodicée, écrit, voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi véridique, celui qui a présidé à toute la création de Dieu. Donc on sait que le mot Amen veut dire qu'il soit ainsi, certainement. Il vient justement de cette racine qui traduit par être stable, être fiable. Donc on voit comment que dans ce premier verset, il y a une allusion à Ésaïe chapitre 65, verset 16, où il est utilisé le mot Dieu Amen, c'est-à-dire le Dieu de vérité, le Dieu fidèle, le Dieu sur qui on peut compter avec certitude. Il est aussi marqué dans ses salutations le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Jésus a utilisé plusieurs fois, à plusieurs reprises, pour insister sur la véracité de ses affirmations. Jésus a dit qu'il était le témoin fidèle, véritable, pour expliquer ce mot Amen. Il est le témoin, c'est-à-dire celui qui a vu, celui qui a entendu, et donc celui qui sait et qui parle avec vérité et fidélité. On sait que Jésus a été justement à l'origine de tout ce que Dieu a créé. L'évangile de Jean, lorsqu'on lit les premiers versets du chapitre 1, on voit comment que la parole était là dès le début, c'est-à-dire Jésus était là depuis le début. Tout a été fait par lui. Dans sa lettre à l'église de Colosse, l'apôtre Paul va dire dans Colossiens chapitre 1, versets 15 à 17, ce Fils, il est l'image de Dieu qui nul ne voit, il est le premier-né de toute création. Donc on voit dans cette salutation que Jésus se présente comme celui qui est tout, celui qui a tout créé. Si ces mots sont là, justement, dans cette salutation, c'est parce que l'Esprit devait démontrer à l'Église de Laodicée qu'ils avaient perdu la vraie signification de qui était Jésus, de ce qu'il était capable de faire, de ce qu'il était réellement, c'est-à-dire le Fils de Dieu, en qui Dieu, son Père, a donné toute autorité et toute confiance. Prochain diable, dans le verset 15, Jésus commence tout de suite par les constatations de cette Église, qui sont négatives. Il n'y a pas de point positif, juste des points négatifs. Par rapport à d'autres églises qu'on a déjà étudiées, les Laodiciens étaient tolérants à l'égard des chrétiens de leur ville. Donc il n'y avait pas vraiment de persécution à cause des Juifs ou bien des autres personnes. Donc ils n'avaient pas besoin de renier leur foi ou d'être un peu ébranlés dans leur foi. Ils n'étaient pas non plus contraints à participer aux célébrations dans les temples païens comme dans certaines villes. Et donc pas poussé à se livrer à l'immoralité, à l'idolâtrie. Aucun reproche n'est fait à cette église dans ces domaines. Mais les chrétiens montraient la même largeur d'esprit que ses concitoyens, jusqu'à devenir fades, comme une eau tiède qui donne la nausée. Je ne sais pas vous, mais lorsqu'on boit de l'eau, on aime soit que l'eau soit froide, soit qu'elle soit chaude, comme par exemple pour un thé. Mais de l'eau tiède, c'est difficile de la boire. Donc on a pu voir que justement, dans cette ville, l'eau venait justement à travers cet aqueduc. Et ces eaux chaudes étaient utiles. Comme les sources thermales, elles permettent de soigner certaines infections, certaines maladies. Les eaux froides de Colosse, qui étaient à côté, étaient vivifiantes. Mais les eaux tièdes n'apportent ni la vie ni le soulagement. Elles ne servent à rien. L'église de Laodicée n'avait aucun témoignage dans la ville. Elle n'apportait pas la vie spirituelle à ses compatriotes. Elle n'aidait personne dans la souffrance. Elle était pitoyable et donnait la nausée. Dieu veut que nous soyons soit froids ou soit bouillants. Il veut que nous soyons bouillants pour lui dans notre marche chrétienne, dans notre expression de foi vers Dieu et vers les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des chrétiens qui sont dynamiques, qui veulent vraiment partager l'évangile, qui sont dans la joie, qui rayonnent de la présence de Dieu. Quand on est à côté d'eux, on est encouragé, on a envie d'être comme eux. Mais Dieu veut aussi que nous soyons froids, dans le sens d'une personne qui est vivifiante, d'une personne qui est stimulante, qui apporte la fraîcheur. Lorsqu'on est à côté d'une personne qui transpire la paix, qui transpire la confiance en Dieu, on aime aussi être à côté de cette personne, parce qu'on se sent bien avec elle. Si nous sommes tièdes dans notre marche chrétienne, si un jour nous sommes un bon chrétien et l'autre jour une personne du monde, si un jour on vient à l'église et pendant un certain temps on ne vient plus, Jésus va nous dire encore aujourd'hui qu'il va nous vomir. C'est un terme qui est assez difficile et qui va nous rejeter si nous sommes tièdes, c'est-à-dire ni froids ni bouillants. Mais l'Esprit de Dieu va dire cette constatation, je vais te vomir si tu ne changes pas. Voilà justement notre prochain dia dans le verset 16. ces sévères reproches. Je vais te vomir, je vais te rejeter, t'éliminer. Pourquoi que l'ennemi, pourquoi que, je veux dire, l'Esprit de Dieu va dire cette constatation? Parce que l'Église ne jouait plus son rôle dans la société. Le Seigneur ne pouvait pas laisser l'Église continuer dans cette manière et donner au monde une image minable de la foi chrétienne. L'Esprit parlait de les vomir de sa bouche. Cet esprit, cette image traduit justement certainement l'élimination de l'Église. Et on sait que cette Église, après un certain nombre d'années, a disparu. Les chrétiens de Laodicée étaient très satisfaits d'eux-mêmes. Ils se sentaient spirituellement riches. Ils pensaient avoir tout acquis au fil des temps, un stade où ils sentaient qu'ils n'avaient plus besoin de rien. Avec le recul, on peut se poser la question de nous étonner de cette attitude orgueilleuse. Mais quand on est pris dans le système avec le temps, à un moment donné, on se rend encore plus compte de l'état où nous sommes. L'attitude des chrétiens, justement, n'était que le reflet de celle de ses concitoyens de Laodicée. Cette église possédait tout, sauf Christ. Cette église possédait tout, la richesse, possède les bonnes choses, sauf Christ. Lorsque l'église est satisfaite d'elle-même, alors on n'est plus dans la vérité de Dieu. Si nous nous suffisons nous-mêmes en tant qu'Église, alors le Seigneur ne peut rien faire pour nous. Si nous croyons qu'en tant qu'Église, nous avons tout, que nous possédons tout, que nous avons la richesse matérielle ou spirituelle, si nous pensons que nous avons toutes les meilleures activités ou choses pour pouvoir attirer les gens, peut-être nous sommes à l'extérieur de ce que le Seigneur veut. Prochain diable, verset 17. Il va dire, tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends même pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est un verset qui est difficile, qui est dur. Tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. Jésus, lorsqu'il dit ces paroles, il réfère encore à la situation de la ville, qui était une ville marchande axée sur le commerce de l'argent et des banques. Les gens de cette ville étaient tellement portés sur leur argent qu'ils disaient qu'ils avaient besoin de rien. L'Église elle-même pensait qu'elle avait besoin de rien, qu'elle avait tout, qu'elle suffisait d'elle-même. Mais elle est malheureuse et pitoyable. Elle est misérable. Elle est pauvre. Elle est aveugle. Elle est nue. Est-ce que des fois, dans notre vie, on ne se sent pas un peu comme cette Église? Peut-être malheureux, peut-être misérable, peut-être pauvre, aveugle. On sent qu'on ne fait pas grand-chose. On sent que peut-être notre vie ne va à rien, ne vaut rien. On ne sent pas où vraiment le Seigneur veut nous conduire. On sent qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements dans notre vie. Alors, comment remédier à cette situation difficile? Regardez dans le verset 18. Il dit, c'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir, afin que on ne voie pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux, afin que tu puisses voir clair. On voit dans ce verset 18 que Dieu va encore, l'Esprit de Dieu va se référer à la situation de la ville. Donc, vous savez, comme on a dit, qu'à cause de cette richesse, les habitants de cette ville se sentaient à l'aise et orgueilleux. De même, l'église de Laodicée avait cette même autosuffisance par rapport à sa richesse spirituelle. Ils pensaient qu'ils avaient tout, même du côté spirituel. Il faut que cette richesse passe par le feu, afin qu'elle soit épurée et qu'il ne reste que l'essentiel, c'est-à-dire l'or pur. Voilà pourquoi il dit, achète chez moi de l'or purifié. Il est parlé ici de la richesse du cœur, des intentions envers Dieu. Est-ce que nos intentions, est-ce que notre adoration est vraiment pure? De plaire à Dieu, de le suivre avec un cœur droit et dans la vérité. Il est parlé justement de vêtements blancs. Dans cette ville, on fabriquait des vêtements colorés, mais ils ont besoin de vêtements blancs qui représentent la pureté de Dieu, d'être nettoyés et lavés. Donc d'avoir un cœur pur, lavé de toute souillure du péché et des compromis avec le monde. Il est parlé aussi de collier pour oindre les yeux. Donc c'est un remède qui permet de guérir les yeux de la cécité, de l'aveuglement. Ils avaient justement une université, on pourrait dire, par rapport à tout ce qui était le travail auprès des personnes dans la santé, par rapport surtout à, ils avaient une opportunité, ils avaient une richesse du côté de pouvoir guérir aussi les soins par rapport aux yeux. Mais ils sont encouragés, les gens de l'Église, à prendre ce médicament afin qu'ils voient réellement dans quel état ils sont. De prendre le collyre de Dieu pour oindre les yeux. Le Seigneur parle à cette Église dans le langage qu'elle est capable de comprendre, en mettant dans le contexte qu'ils vivent. Et qu'est-ce qu'on voit dans les premiers mots du verset 18? Achète chez moi. Il ne dit pas achète à l'Église, achète à la société, achète chez quelqu'un d'autre, mais achète chez moi. C'est-à-dire reviens vers moi pour que je puisse te donner ce que tu as besoin. Et Dieu dit, achète quelque chose qui est utile. Achète des articles qui sont utiles, de l'or purifié, des vêtements blancs et un remède capable de rendre la vue. C'est lui le Seigneur seul qui procure la véritable richesse. C'est lui seul qui couvre les faux de son vêtement de justice. Et c'est lui seul qui permet de voir clair à nouveau. Donc les véritables, entre guillemets, articles que Jésus propose aux chrétiens de Laodicée va permettre d'être riche, non pas de richesse matérielle, mais de richesse spirituelle, de véritable, vraiment, travail au fond de notre cœur qui va porter du fruit pour le Seigneur. Vêtu et non nu qui a la honte de tous, d'avoir un véritable témoignage de qui nous sommes. Qu'ils voient réellement et soient guéris de leur aveuglement, qu'ils puissent voir réellement ce qui se passe devant leurs yeux, afin qu'ils puissent se détourner du péché et du compromis. Mes amis, ce message d'avertissement est encore pour nous aujourd'hui. Ce reproche de Jésus pour cette Église doit nous faire réfléchir. On dit que le message de cette Église représente les Églises de ce monde, satisfaites d'eux-mêmes. Combien on voit d'Églises qui sont satisfaites, qui ont des beaux bâtiments, qu'ils ont des belles célébrations, qu'ils ont des pasteurs qui sont renommés. Mais où Jésus va leur dire, je vais te vomir, je vais te rejeter. Parce que tu es une église peut-être de façade, mais mon cœur n'est plus vraiment dans cette église. Combien de fois nous croyons voir ou entendre, connaître la volonté de Dieu, mais nous sommes aveuglés par le péché. Nous sommes aveuglés par nos façons de voir les choses selon nos propres cœurs. Nous n'avons plus ce vêtement pur. C'est-à-dire qu'on n'a plus ce cœur pur et droit devant Dieu. On accepte le compromis, on accepte le péché dans nos maisons. Si on reste dans cet état, alors Jésus va nous vomir, va nous rejeter, même si nous sommes des chrétiens, comme ceux de cette église de Laodicée. Voilà pourquoi le prochain diable, il dit au verset 19, moi, ceux que j'aime, je les reprends. Et je les corrige, fais donc preuve de zèle et change. Comme un père, il reprend ses enfants, non pas parce qu'il aime leur faire du mal ou pour démontrer son autorité, mais parce qu'il les aime, ses enfants, et veut leur bien. Donc, il corrige pour leur bien. Même si au début, peut-être l'enfant ne sait pas pourquoi qu'il a été corrigé et peut même critiquer son père pour la correction. Mais il va voir que, fur et à mesure, que son père veut l'amener dans un droit chemin, dans des valeurs qui respectent l'autorité, qui respectent les parents, qui respectent les valeurs du Seigneur. Dieu nous reprend et nous corrige parce qu'il nous aime et veut que nous ayons une vie merveilleuse avec lui, avec les autres. Dieu fait différentes façons pour nous corriger. Des fois, il le fait d'une façon plus dure parce qu'on a peut-être la tête dure, parce que peut-être qu'on est trop dans le péché et qu'on n'arrive pas à voir les choses. Mais tout cela, il nous corrige pour nous permettre de nous redresser, de nous relever et de pouvoir nous permettre d'aller sur le chemin de la vie. Il veut que nous puissions retrouver ce zèle de notre foi, d'avoir un témoignage qui est vrai, qui est pur, qui est puissant. Repens-toi sont les mots que Jésus va utiliser avec ses disciples et les personnes qui l'entouraient lors de sa mission sur terre. Combien de fois il a dit repens-toi, repens-toi. Nous croyons des fois être justes, de tout savoir, de tout connaître. Donc peut-être même une position à l'église ou dans un ministère. Mais le Seigneur veut nous dire, repens-toi. Et comment est-ce qu'il le fait? On le voit dans la réponse dans le verset 20. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Qu'est-ce que veut dire cette image? D'abord, que le Seigneur est en dehors, alors qu'on le croyait dedans. Mais aussi, c'est que lui, c'est lui-même qui prend l'initiative de venir vers nous, alors qu'on n'attend pas à sa venue, puisque la porte est fermée. Souvent, on utilise ce verset pour pouvoir dire aux non-chrétiens de frapper à la porte, puis que Dieu va ouvrir. Mais si on regarde le contexte de cette lettre, il parle à des chrétiens. Il ne parle pas à des non-chrétiens qui disent que ceux qui n'ont pas entendu parler de Dieu et qui va frapper à leur porte. Il parle ici à des chrétiens qui croient que Dieu est avec eux, mais qu'il est en dehors. Et il dit, je frappe et j'aimerais que tu puisses ouvrir la porte. Il frappe à la porte de l'Église, mais aussi à la porte de chaque croyant. Parce que la réponse ne peut être qu'individuelle. Il veut que chacun de nous on puisse accepter d'ouvrir la porte de notre cœur. Le Seigneur attend sans se décourager qu'on lui ouvre. Il ne va pas forcer la porte. Des fois, il va rester très longtemps dehors. Parce que peut-être on n'est pas prêt à ouvrir. Parce qu'on n'entend pas, parce qu'on est tellement dans le brouhaha peut-être du monde ou de d'autres choses. Le Seigneur attend sans se décourager. Et si quelqu'un lui ouvre la porte, il entre sans faire de reproche. Il partage simplement le repas avec lui en signe d'alliance et d'unité et d'amitié. Jésus veut ce contact privilégié avec nous, veut prendre le temps de s'asseoir à notre côté, de nous écouter, de nous parler directement comme un ami. C'est ce que j'aime avec le Seigneur Jésus-Christ. Et on le voit dans beaucoup de places dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on leur apporte des pécheurs, lorsqu'on lui apporte des personnes qui étaient prises d'adultère ou qui étaient prises d'autres choses, il ne les a pas jugés, il les a simplement aimés. Et par eux-mêmes, se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'être changés, transformés. Alors ce matin, est-ce que le Seigneur est avec nous ou est-ce qu'il est en dehors, derrière la porte de notre cœur et il frappe pour que nous puissions le laisser entrer? Prochain dia. Alors, comme il est dit au verset 21, Jésus veut nous donner la victoire et nous faire asseoir sur le trône. Mais avant de posséder ce cadeau, justement, d'être assis sur le trône avec Jésus, on a un combat à faire. On a des victoires à remporter. Oui, c'est vrai que certains, peut-être, combats qu'on va perdre, parce qu'on ne sera pas prêt, parce qu'on va se laisser peut-être distraire par l'ennemi, ou surprendre par l'ennemi, comme les chrétiens de Laodicée. Mais on doit retrousser nos manches et ne pas s'asseoir sur ce que nous pensons avoir comme des acquis, dans quelque chose que nous croyons que nous avons déjà gagné. Oui, c'est vrai que nous savons avec Dieu que nous allons avoir la victoire finale pour l'éternité. Mais ça ne va pas se faire si on reste les bras croisés, en disant que nous avons le salut, que nous sommes justes et graciés devant le Seigneur. Les chrétiens de Laodicée étaient des hommes et des femmes qui avaient aussi été touchés par le message de Jésus, qui avaient passé par la confession de leurs péchés, qui avaient reçu la promesse d'être des nouvelles créatures devant Dieu. Mais ces chrétiens avaient perdu cette foi, avaient perdu cette ardeur de suivre Jésus de la vérité. Ils avaient oublié le message de Jésus qui était là pour changer, pour transformer. Oui, nous pouvons perdre cette ardeur pour Dieu. Que le message qui a transformé notre vie, il y a peut-être une année, 2 ans, 10 ans, 20 ans, n'a plus le même impact. Voilà pourquoi que nous devons prendre au sérieux ces avertissements qui nous sont donnés, de se repentir pour pouvoir revenir vers le Seigneur, pour pouvoir ouvrir la porte de notre cœur, pour que le Seigneur puisse entrer, travailler avec nous, continuer à faire le travail de ménage pour que nous puissions être justes devant lui. Et pour terminer, prochain dia, comme dans chaque lettre, il termine par ce verset, au verset 22. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Si Jésus a mis à la fin de chaque lettre cet avertissement d'avoir des oreilles pour écouter ce qu'il avait besoin. Oui, on sait que nos oreilles sont là pour écouter, pour entendre les avertissements, comme aussi entendre les encouragements que le Seigneur nous donne. Mais souvent, nous n'écoutons pas avec nos oreilles. Nous écoutons peut-être avec notre intelligence ou de ce que nous aimerons entendre. C'est pourquoi que Jésus veut qu'on nous dise ce matin d'écouter avec des oreilles attentives, d'être prêt à se repentir, d'ouvrir la porte de notre cœur à Jésus, d'écouter avec des oreilles attentives afin d'être riche spirituellement, d'écouter avec des oreilles attentives afin d'être vêtu d'un homme d'un vêtement blanc et pur. L'écouter avec des oreilles attentives, afin d'être guéri de notre aveuglement. Alors, prenons simplement quelques instants. Nous allons prendre tout à l'heure la Sainte Cène qui nous rappelle ce que Jésus a fait pour nous il y a plus de 2000 ans. Mais avant que nous prenions cette Sainte Cène, le Seigneur veut que nous écoutions, que nous l'écoutions, afin que nous puissions prendre cette Sainte Cène dans un esprit peut-être de pardon, de repentance, dans un esprit d'engagement, de réengagement envers le Seigneur. Nous ne pouvons pas rester insensibles devant ces avertissements que l'Esprit donne à cette Église. Nous avons tous des cheminements différents, nous avons tous des moments difficiles ou des moments plus heureux dans notre vie. Peut-être que vous avez passé par un temps plus difficile, un temps de questionnement, un temps de doute, un temps de découragement. Un temps où vous avez l'impression que le Seigneur n'est plus vraiment là, que vous ne l'entendez plus, que vous ne portez pas réellement du fruit pour le Seigneur. Alors, comme il le dit à cette Église, repens-toi, change. Sinon, je vais te vomir. Le Seigneur ne veut pas nous faire de menaces. Il veut simplement nous faire revenir à lui. Il veut que nous puissions ouvrir la porte pour qu'il puisse venir manger avec nous, qu'il puisse passer du temps avec nous. Alors laissons simplement quelques instants l'Esprit de Dieu vous parler pour dire, est-ce qu'il y a un point dans ce que je vois dans cette église de la Odyssée qui m'interpelle? Est-ce qu'il y a un point, Saint-Esprit, que tu veux me dire? Est-ce que peut-être je ne suis pas froid ou je ne suis pas bouillant pour toi? Et puis peut-être que je suis tiède. Demandez au Seigneur d'être revitalisé par lui, d'avoir un nouveau souffle d'engagement. Peut-être vous sentez que vous avez tout, vous avez peut-être une belle vie, la famille va bien, le travail va bien. Même on pense qu'on a tout avec le Seigneur, mais votre cœur, il est peut-être mélangé. Le Seigneur veut que vous soyez riche spirituellement. Peut-être qu'il y a un péché, quelque chose, un compromis que vous faites dans votre vie, qui a besoin d'être remis à la surface pour que le Seigneur puisse laver de son sang précieux. Pour qu'il puisse nous donner ce vêtement blanc et pur, d'être purifié à lui. Peut-être qu'on a l'impression ce matin d'aller nulle part, on a l'impression d'être aveugle, on ne comprend pas ce qui se passe autour de nous, on ne comprend pas ce qui se passe dans notre vie. Le Seigneur veut aussi nous donner un collyre pour nos yeux, c'est-à-dire nous guérir de notre aveuglement, pour que nous puissions voir avec les yeux du Seigneur. Alors laissons-nous interpeller par le Saint-Esprit. Rappelons-nous que ce matin encore, à travers ce repas du Seigneur, on veut célébrer que Jésus est mort pour chacun de nous. Et qu'encore aujourd'hui, il veut encore nous pardonner. Il veut nous laver, il veut nous purifier. Il veut que nous puissions prendre un réengagement fort avec lui. Alors, qu'est-ce que nous allons répondre à ce que l'Esprit nous dit dans notre cœur? Le Seigneur veut nous inviter ce matin à venir à cette table. Il nous dit, si vous vous repentez sérieusement et sincèrement de vos péchés, si vous vivez dans l'amour et dans la paix avec votre prochain, si vous menez une vie nouvelle en suivant les commandements de Dieu, si vous marchez dans ses saintes voies, si vous vous approchez de lui par la foi, si vous prenez ce Saint-Sacrement pour votre consolation, adresser dans une humble prosternation cette confession honnête au Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, Père notre Seigneur Jésus-Christ, Créateur de toutes choses, Juge de tous les humains, nous confessons que nous avons péché et que nous sommes profondément attristés en pensant à toutes les choses mauvaises de notre vie passée. Nous avons péché contre toi, ô Dieu Saint, et contre ton amour. Nous ne méritons que ton indignation et ta colère. Nous nous repentons et nous regrettons profondément d'avoir mal agi, de ne pas avoir accompli les actes que nous aurions dû faire. Nos cœurs sont contrits et nous reconnaissons que nous sommes désespérés sans ta grâce. Accorde-nous ta clémence, Père miséricordieux. Pardonne-nous par égard pour ton Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Pardonne-nous et purifie-nous. Donne-nous la force de te servir et te plaire en nouveauté de vie. À l'honneur et en louant ton nom, grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, nous ne venons pas à ta table avec orgueil et suffisance, croyant que notre propre justice, mais nous comptons sur ta grâce abondante et infinie. Nous ne sommes pas dignes de ramasser les miettes dans ta table. Toi, ô Seigneur, tu ne changes pas dans ta miséricorde parce que tu es amour. Accorde-nous donc, Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, de manger à ta table de manière à recevoir, en esprit et en vérité, le corps de ton cher Fils Jésus-Christ, de même que les mérites accordés par son sang versé, afin qu'étant lavés et purifiés par son sang précieux, nous puissions vivre et croître à sa ressemblance, nous en lui et lui en nous. Alors nous sommes invités à venir devant, à venir prendre des éléments et de retourner à notre place, on va les prendre tous ensemble. Commencer de dire Seigneur, oui. De venir avec humilité, avec confession que j'ai besoin de toi. Que à travers ce pain qui représente ton corps, cette coupe qui représente ton sang, je veux continuer d'être lavé et purifié par toi. Je veux encore prendre cet engagement de te suivre coûte que coûte. Alors, nous sommes invités à venir à cette table. Alors, simplement, levons-nous, venons prendre les éléments et ensuite on va les prendre tous ensemble. Comme il a ordonné, en mémoire de sa passion et de sa mort, de participer à son sang et à ton corps très saint. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit la coupe, Jésus prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le remplit en donnant à ses disciples en disant, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous et pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Le Seigneur, ce matin, on vient humblement devant toi. Lorsque nous regardons, Seigneur, cette lettre à cette église de Laodicée, tu avais plusieurs reproches à leur faire. Seigneur, nous voulons venir devant toi, devant cette table, aussi en confessant que nous avons besoin encore de toi, que nous avons besoin d'être encore lavés et purifiés par toi, que nous avons encore besoin, Seigneur, d'être renouvelés, régénérés en toi. Alors oui, humblement, on vient, Seigneur, devant toi et on confesse nos manquements, nos fautes, nos compromis que souvent nous faisons. Nous voulons confesser notre aveuglement, de croire que nous avons tout, mais souvent que nous sommes loin de toi. Comme cette église, nous croyons peut-être que nous sommes riches spirituellement, que nous avons des belles choses. et que notre cœur, il est vide. Que nous sommes ni froids ni bouillants, mais nous sommes tièdes dans notre foi, dans notre cheminement avec toi. Seigneur, en venant devant cette table, on reconnaît que, Seigneur, par ton sang précieux, par le corps qui était brisé, tu es venu, toi, le Fils de Dieu, humblement aller jusque sur la croix. Tu l'as fait par amour. Dans ta grande grâce, dans ta grande bonté, tu permets encore aujourd'hui d'être encore lavé et purifié par toi. Alors oui, Seigneur, merci. Merci pour ce rappel. Que ce sang continue de nous laver. Que ce ne soit pas juste un rappel, un symbole, mais qu'encore aujourd'hui, nous puissions être purifiés de nos péchés. Encore aujourd'hui, nous puissions là laisser à tes pieds tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui ne te loue pas, toute notre suffisance, tout notre orgueil, pour que nous puissions venir humblement devant toi et reconnaître qu'on a besoin de marcher avec toi. Oui, Seigneur, nous voulons ouvrir la porte de notre cœur pour que tu puisses venir manger avec nous, tu puisses passer du temps avec nous. Alors merci. Merci pour cette occasion que tu nous donnes encore ce matin de venir devant toi. De reconnaître que nous avons besoin encore de ta force. On a besoin encore de ton esprit pour continuer de marcher d'une façon juste et digne. Que nous avons besoin régulièrement, Seigneur, de se repentir, de changer notre cœur pour vraiment être non selon l'humain, mais selon toi. Oui, continue ton travail en chacun de nous. Que ton esprit continue de nous laver, continue de nous purifier. Continue, Seigneur, de enlever, Seigneur, tout ce qui ne te plaît, qui plaît pas, afin que nous puissions avoir ce cœur pur, comme cet or pur qui est enlevé de toutes ces scories. Pour que, Seigneur, le jour que tu reviens, le jour que nous allons te rencontrer, tu puisses dire, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, rentre dans le repos éternel, parce que tu as été fidèle jusqu'au bout. Oui, Seigneur, nous voulons réitérer ce matin, que nous voulons te suivre coûte que coûte, que nous voulons consacrer notre vie à toi, que nous ne voulons pas marcher un pied dans l'Église, un pied avec toi, puis un pied dans le monde, mais que nous voulons marcher vraiment à ta suite. Que ce soit toi le seul Seigneur de notre vie, que ce soit toi le seul guide de toutes nos décisions, de tout ce que nous faisons jour après jour. Alors merci. Merci parce que nous ne sommes pas seuls, nous avons ton esprit en nous, et tu viens encore nous révéler encore aujourd'hui ce que nous avons besoin pour marcher d'une façon juste et digne dans la vérité avec toi. Alors merci. Merci pour ce rappel. Merci pour ces lettres aux églises qui nous permettent d'être changés, qui nous permettent de nous redresser, qui nous permettent de revenir dans tes bras d'amour et de marcher d'une façon juste et digne devant toi. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que maintenant que nous allons bientôt nous quitter, que nous allons retourner, Seigneur, dans notre vie de tous les jours, dans nos familles, que, Seigneur, ta grâce, ta bonté, le désir d'être engagé envers toi, d'avoir ce cœur pur, puisse rester en nous. Que nous puissions, Seigneur, sentir ta paix, sentir ta joie, sentir ta grâce jour après jour, et qu'elle puisse nous habiter aujourd'hui, demain, jusqu'à ton retour, et que nous puissions rester dans ta grâce et bénédiction. Nous te prions, te louons, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es pour nous. Merci. Nous sommes reconnaissants de ce que tu fais en nous, de ce que tu continues de travailler en nous. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Amen.